France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
À 12 ans, elle découvre Mary Poppins. J'avais un parapluie, j'avais vraiment l'impression que j'allais m'envoler. Son rêve s'est réalisé et le cinéma reste toujours mystérieux pour elle, comme en état d'apesanteur. Bonjour tout le monde, bonne année Laurent.
Bonjour Christine, bonne année à tous et bienvenue.
Nous avons choisi un soleil pour démarrer 2026, une actrice qui a traversé tout le spectre des émotions du rose au noir avec beaucoup de fantaisie et un vrai sens de la dérision. Bonjour Sandrine Kiberlin.
Bonjour.
2026 et trois nouveaux films à votre programme, mais avant d'entamer ce marathon, une petite pause ce matin avec les films des autres. Votre carte blanche est comme une carte du tendre. Oui, l'amour, il y en a partout dans vos choix et d'autres grandes actrices à l'intérieur de ces films, de Annie Hall au goût des autres, merci de les célébrer. Enfin, les sorties de ce premier mercredi de l'année, de Los Tigres à Laurent dans le vent. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est très marrant le cinéma parce qu'il faut retrouver ce qu'on ne connaissait pas en connaissant très bien ce qu'on connaît. C'est la difficulté,
oui.
C'est de vous faire croire à quelque chose qu'on sait très bien en vous faisant croire qu'on ne le sait pas du tout. Et moi je pense que le secret c'est de le savoir mieux que bien. Pour oublier qu'on le sait très très bien et avoir l'air de le découvrir en même temps que vous. Et je voudrais que ça reste toujours mystérieux, jamais comprendre comment je fais, parce que d'abord je comprends pas vraiment, et je veux pas maîtriser ce truc-là. Parce que si je le maîtrise, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire.
Tout le secret du jeu de l'acteur est là, dans ce mystère que vous entretenez depuis pas mal d'années, Sandrine Kiberlin, de René à Dupieux, en passant par Miller, Salvadori, Brisé, Rochon ou Dupontel, entre autres Démiurge. Mais peut-être que tout cela a commencé avec ce film d'Hitchcock, Les Enchaînés. Et après, vous disiez, je parlais comme Ingrid Bergman. J'étais Ingrid Bergman. C'est là que l'identification a commencé.
Oui, entre le fameux Julie Andrews avec Mary Poppins,
ouais,
et Ingrid Bergman. C'est-à-dire que c'est très bon signe quand je sors du cinéma et que je me prends pour le personnage que je viens de voir. Je n'arrive pas à me séparer du film que je viens de voir. Je suis imprégnée de l'histoire et je reste dans l'idée que c'est moi, en fait, que c'est celle que j'ai vue pendant une heure et demie, deux heures, était moi et je voulais être elle et donc j'ai compris. Enfin, très bizarrement que...
Je même préfère... si c'est une tueuse en série
Est-ce que ça m'est arrivé avec une tueuse en série? Ça pourrait m'arriver,
oui,
peut-être,
oui,
avec, d'être
oui,
habité par une tueuse en série.
Ouais.
Et de vouloir... Je reste dans le jeu, hein, c'est de vouloir la jouer. Mais de me sentir presque habité par un rythme qui est le sien, marcher comme elle. Tout à coup, il y a quelque chose. Et je me vois dans les rues en Ingrid Bergman dans Notorious ou en... Marnie ou en, je sais pas, en, des personnages comme ça qui me marquent tant que j'arrive pas à débrancher, quoi.
Beaucoup d'autres actrices vont parcourir votre carte blanche ce matin, à commencer par elle. Diane Keaton, partie en octobre dernier, et ce film Annie Hall de Woody Allen. Nous avons choisi cette scène, la première rencontre entre Al Wiesinger et Annie dans les vestiaires d'un club de tennis.
Hi.
Hi.
Oh, hi. Hi.
Well, bye.
You play very well.
Oh, yeah? So do you. Oh, God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, God, Annie. Well, oh, well. La-di-da, la-di-da, la-la, yeah.
You want a lift?
Oh, why? You got a car?
No, I was going to take a cab.
Oh, no, I have a car.
You have a car? So, I don't understand. If you have a car, so then why did you say, do you have a car, like you wanted a lift?
I don't know. I wasn't... It's, I got this VW out there. What a jerk, yeah.
Annie Hall, que vous aimez tellement, Sandrine Kiberlin, que vous avez passé un extrait du film à votre concours d'entrée au conservatoire.
Oui, ouais, contre l'avis de tous. Ouais. C'est pas par provocation, hein, mais parce que je...
Il y avait du Racine à côté, et puis Annie Hall.
Ouais, j'ai passé du Corneille. À côté, mais j'ai passé Annie Hall parce que j'avais la certitude qu'il fallait passer ce que je sentais. Et donc, quand je voyais les films de Woody Allen, enfin celui-là particulièrement, j'avais l'impression d'être de cette famille-là, de cette godicherie-là, et de ce... Oui, le charme de cette actrice avait changé la donne pour moi. Je me suis dit, il y avait à la fois de la comédie, mais pas premier degré dans l'idée de faire rire, mais dans là encore une histoire de mystère, mais dans un débit de parole, un rythme qui est lié à une situation et qui va peut-être, j'espérais en tout cas, faire rire le jury. Et le jury était conquis par cette scène dont ils étaient à ça d'interdire des scènes de cinéma. Hein. Et en fait, je me suis dit, je passe un moment, c'était un moment capital pour moi, ce concours, et je me suis dit, il faut que je passe ce que je ressens le plus, et c'est ce qu'il faut faire en fait.
Et c'est Yvon Attal qui vous donnait la réplique, qui était Woody Allen,
qui était
vous
Woody Allen.
Trouvé chez Rochon après dans
les années plus tard par hasard.
Dans les Patriotes. Ouais,
où il appelait ma mère en disant elle est bien partie pour avoir le rôle, mais lui dis pas.
Annie Hall, c'est la naissance et la fin d'une histoire d'amour.
Ouais.
Et c'est l'histoire aussi de Woody Allen et de Diane Keaton qui s'appelait en fait Diane Hall.
Oui.
On a repris son vrai nom.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le film? La nostalgie, New York, la psychanalyse?
Oui, la rencontre de ces deux-là, un peu improbable, la confusion de tout, lui qui est quand même un humoriste mais qui a peur de tout, elle qui au contraire a l'air très l'inverse de lui, et puis ça me bouleverse comment il raconte l'évolution, comme si c'était vraiment le coup de foudre de sa vie à lui, parce que lui il se remet de on le connaît dans le film, il est
névrosé.
C'est qu'un homme névrosé, voilà, et elle arrive dans sa vie comme une tornade de vie, quoi. Mais c'est beau de voir aussi comment le couple peut subir les névroses de l'un, de l'autre, enfin, et l'évolution de cette histoire. J'aime quand les films racontent quelque chose de très fort, l'air de rien. C'est très puissant parce qu'on s'identifie tous à cet air de rien qui fait que ça bascule dans une rupture, quoi.
Vous êtes un peu notre Diane Keaton française. Non, mais c'est vrai,
il y a pas mal de compliments qu'on puisse me faire.
Il y a pas mal de similitudes entre vous deux, quand même. Vous auriez adoré être dans un Woody Allen.
Adoré. Je les regarde tout le temps. Je les regarde régulièrement. Et puis je les regarde même. Je trouve qu'il a une façon de filmer. Totalement personnel, mais qui met en valeur les acteurs, qui met en valeur les situations, qui est très... il a inventé quelque chose, voilà, même ça, on le sait tous, mais elle était, pour moi, belle singulièrement, comme rarement on pouvait être à la fois drôle et très émouvante, parce qu'elle a été très émouvante dans certains films aussi.
Une autre histoire d'amour, mais à trois, celle-là, une femme, deux hommes, Romy Schneider, Yves Montand, Samy Fray, dans César et Rosalie de Claude Sautet, écrit avec... Jean-Loup Dabadie, des personnages faillibles et magnifiques. Une scène de restaurant entre Romy Schneider et Yves Montand.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
Ah, cette réplique et tant d'autres, signée Jean-Loup Dabadie, donc des personnages faillibles et magnifiques, des acteurs incroyables. J'ai lu quelque part qu'une de vos amies disait que votre père ressemblait à Yves Montand.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Ouais. Il avait ce charme-là. Il arrivait dans une pièce et il pouvait faire ta vali 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 et retourner toute la salle. Il avait énormément d'humour, énormément de charme. Et physiquement, il lui ressemblait tout simplement parce qu'il était grand, parce qu'il était... Oui, il lui ressemblait vraiment. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimez dans
ce film?
Peut-être
ça fait partie des choses que j'aime de ce film.
Oui, on aime.
Sans doute.
On aime tout ce film, on le connaît par cœur.
Ah ouais, par cœur. Je sais pas, j'aime la lettre dans le train,
ouais.
J'aime les dialogues de Dabadi, c'est important. D'ailleurs, vous l'avez tout de suite cité parce ouais. que c'est tellement bien écrit quand il voit la petite Caroline. Les mimiques de mon temps, les deux hommes si différents qui, à la fin, s'aiment à travers elle, l'impossibilité de choisir, l'envie de liberté de cette femme. Tout est dit avec tellement de vie, quoi, tellement indémodable, tellement en même temps une époque. C'est ça qui est fou, c'est qu'on reconnaît une époque mais qu'on s'en lasse pas. Les dialogues sont éternels pour moi. C'est l'amour, d'ailleurs on s'aime dans les années 70 comme en 2025, comme on s'aimera, j'imagine, en 3000. Mais le sentiment comme ça, vu par lui, et puis sautait quoi, la façon de filmer... les visages, la voiture, quand il essaye de doubler tout le monde et elle dit « il est fort ». C'est tellement drôle et c'est tellement douloureux aussi, sur l'envie de s'approprier quelqu'un, l'envie... c'est dévastateur quand on a envie de garder quelqu'un à soi, la jalousie, un sentiment de propriété, et elle qui incarne vraiment la femme... moderne, quoi, la femme qui est libre, qui s'assume, qui dit quoi, je t'appartiens pas, si j'ai envie d'aller avec lui, je vais avec lui, et puis quand elle revient, l'idiotie de mon temps, si jaloux, qui lui dit qu'il a tué quelqu'un pour elle, alors là c'est...
J'ai tué un homme.
Ouais, et là c'est la goutte de trop, c'est ah bon, mais dis-moi combien de types tu peux tuer pour moi, et elle s'en va. Ça c'est d'un romanesque, jamais pathos, c'est... Ça complexe, quoi, parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Pour moi, c'est...
Ça a dû être important pour vous de recevoir le prix Romy Schneider.
Très. C'était vraiment l'actrice, je pense, pour beaucoup d'actrices.
Ouais.
Mais l'actrice qui habitait l'image, je me souviens de l'avoir vue jeune et d'avoir été extrêmement choquée par ça, par un sentiment de d'être plus en vie dans cette image que n'importe quelle femme que j'avais pu croiser dans la vie, quoi.
Oui.
Et j'avais l'impression qu'elle incarnait de façon à 100% ce qu'elle disait, ce qu'elle jouait. Enfin, je la voyais pas jouer, je voyais une femme qui vivait la chose à l'image. Et ça m'a toujours servi d'exemple de jeu que je trouvais plus vrai que nature, quoi. Et quand j'ai eu le prix, être associée d'une façon indirecte à elle, c'était la gloire, quoi.
En 2019, on découvre le premier film d'une actrice, Afsa Herzi, Tu mérites un amour, une écriture ultra contemporaine.
Ça fait des frissons, quand on dit Tu mérites un amour.
Un vent de fraîcheur où tout sonne juste, et pourtant, apparemment, rien de plus classique que ce scénario, le chagrin d'amour d'une jeune femme, Lila, après sa rupture avec Rémi. On écoute un petit bout de bande-annonce.
Ça, c'est pas l'amour. C'est malade, quoi.
Bah, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur.
Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit?
Une raclure comme lui, là. Tu fais du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche l'affaire.
Je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, voilà, pendant 3 semaines.
Le vrai truc, c'est que tu l'oublies. C'est con à dire, hein, et que tu tombes amoureuse ailleurs.
Ça te dirait de prendre mon numéro, on va boire un verre, quelque chose. T'as déjà été amoureuse?
Ah bah oui.
Comment tu le sais?
Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression.
Il doit être en train de se branler sous une yourte.
J'ai plus jamais eu de nouvelles.
Il disait quoi?
Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça.
Tu m'as dit ça, toi aussi.
Tu mérites un amour, un magnifique geste artistique, un film autofinancé par Afsa Herzi.
Ouais, c'est fou ce film parce que elle se filme, elle est en gros plan quasiment tout le temps, serrée sur ce chagrin qu'elle traverse pendant tout le film. L'écriture est tellement intelligente, Elle est à toutes les manettes, elle tient toutes les manettes, et c'est la naissance d'une cinéaste, d'une auteure. Enfin, je trouve qu'elle est. Ce film m'a complètement bouleversée ces dernières années. Je pense qu'elle sort du lot complètement. Elle est. Il y a eu la. Oui, la naissance.
Enfin, une moi, cinéaste
j'aimais...
est née.
Ouais, j'aimais beaucoup l'actrice. Hein. J'ai toujours aimé l'actrice. Mais là, tout à coup, j'ai vu son film et on a envie de pleurer du début à la fin, quoi. Je sais pas. Et en même temps, c'est drôle.
Ouais.
Et des acteurs incroyables autour d'elle. Tout est réussi, quoi. J'ai adoré les partis pris qu'elle a gardés, hein, je trouve, même dans son deuxième et troisième film après, d'être très serrée comme ça sur les choses qu'elle a racontées, comme si elle avait un besoin d'être en gros plan sur ce qu'elle raconte. Donc il y a des partis pris très forts, mais jamais, jamais démonstratifs non plus. Et il y a une langue à elle aussi, je trouve, avec un... c'est cru aussi, je trouve. Il y a une violence, elle ose, elle est libre, elle est... Elle a une beauté très particulière à elle. Et puis, le film raconte un truc, là encore, hein, c'est un sujet pour moi éternel, universel, mais la rupture, c'est quand même tellement vu et revu, et elle en fait quelque chose de nouveau à travers Frida Kahlo. Là, ça a enfoncé le clou sur Anthony Bajon aussi, la séquence où il arrive. Et
le photographe, le jeune photographe qu'elle rencontre,
Et la renaissance, comme ça, comment on se sort d'un chagrin, comment on n'y croit plus, puis comment peut-être on y croit à nouveau et tout, c'est bouleversant son film. Quand je montais mon film, elle montait son film, le deuxième à côté de moi, et je me disais, oh, merde, je monte à côté d'Affiel. Cauchemar. Elle me disait, si tu veux, je te montre des images. J'avais envie de lui dire, bah, pas moi. Tellement j'étais. Mais en même temps, j'étais très contente qu'elle soit tout près. J'ai l'impression qu'elle m'envoyait des ondes de cinéaste. Ouais. Elle est à part pour moi. Vraiment, elle est à part.
Un ovni dans votre sélection, Sandrine Kiberlin, c'est réalisé par le cinéaste polonais Jerzy Skolimowski. C'est Deep End, 1971. L'éveil sexuel d'un adolescent engagé dans un établissement de bain londonien.
Your first job?
Yeah.
I'll show you the pool. Hey, hey! Ladies of a certain age tend to favor polite and obliging young boys.
Why can't you look into my eyes? Look. Boy, stop it.
I don't want to work away.
I could see you home tonight if you want me to.
I've never.
Un film Deep End, drôle et désespéré et virtuose, dans le swinging London et ses couleurs éclatantes. C'est en fait un film d'apprentissage, le garçon de 15 ans qui va sauter assez rapidement dans l'âge adulte en étant amoureux de cette fille de la piscine
et jaloux de cette fille.
Mais il est hypnotique, ce film, non ?
Il est ?
Hypnotique.
Hypnotique. Et moi, je crois que c'est un film... J'en ai jamais vu deux comme ça.
Non.
Enfin, il y a plein de films qui ressemblent à aucun autre, mais lui... J'ai eu un choc, moi, vraiment visuel, déjà. Ouais. J'ai l'affiche. J'ai pas d'affiche de film.
Complètement.
Mais l'affiche est très, très belle. Il y a une affiche très, très belle de ce film qui est comme un puzzle moments forts du film, avec la couleur de cheveux d'elle. Enfin,
un peu pop, comme
un film. Tout est pop, ouais, mais pas... c'est tellement sincèrement pop, quoi. C'est pas volontaire,
c'est pas arty. Voilà.
Et il y a cette vraie histoire qui se passe dans les bains, comme ça, de ces... Enfin, c'est complètement cinématographique, quoi. Je sais pas comment.
Avec ces femmes qui l'attirent dans la cabine, ce jeune garçon, dès le début d'ailleurs.
Il y a un truc sur la sexualité qui est hyper fort, il y a un truc sur la façon de filmer qui est complètement... Pour moi, c'était complètement... hypnotique, vous avez raison, j'étais complètement sidérée par ce film.
On croit dans une planète inconnue, mais totalement familière.
C'est
le paradoxe absolu du film.
C'est-à-dire que le film, il est assez formel, mais il est très accessible, il est très émouvant aussi. Moi, je me souviens qu'à la fin, je pleurais, là, il y a l'histoire
dans la piscine vide. Ouais.
Et c'est... ça reste un film pour moi... C'est compliqué de choisir des films au milieu de tous les films qu'on aime, mais celui-là, ça reste un moment que j'ai vécu comme un moment nouveau au cinéma, comme quelque chose qui m'a percuté de façon différente.
C'est un des films préférés de Étienne Daho.
Ah, voilà. Nous avons d'autres points communs.
Exactement. Un autre apprentissage, mais en France, est plus doux, celui-là, c'est celui d'Antoine Doinel, l'alter ego de Truffaut, sur plusieurs années en 5 films, Baiser volé, Doinel, Jean-Pierre Léo.
C'est le troisième, lui, ça.
C'est le troisième. Ouais. Doinel a 24 ans, il est amoureux de Christine Darbon, c'est Claude Jade. Petit job, veilleur de nuit, détective privé, employé dans un magasin de chaussures. Et ça, on adore, pour enquêter sur son patron Michael Lonsdale, qui pense que tout le monde le déteste.
C'est cette scène-là qu'on va entendre.
Ouais, on va entendre la première rencontre entre Doinel et Fabienne Tabar. Ouais,
fantastique.
Delphine Seyrig.
Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Si toutes les clientes faisaient comme vous.
Non, mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabar. Je suis la femme du patron.
Oh, excusez-moi, je suis vraiment confus, je suis désolée.
Non, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail, c'est vous le nouveau.
Oui, c'est moi, oui.
Antoine, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Trop dorées pour la robe, hein. Oh, vous avez raison, je vais jouer autrement. Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir, du 4,5. D'accord?
Oui.
Vous vouliez Michael Lonsdale et vous avez eu Delphine Seyrig.
Non, mais ça me va très bien.
Non, mais c'est une icône, ah, non, ou pas Seyrig?
Seyrig. Une icône, sa voix déjà,
c'est un
des frissons.
Musique, hein. Ouais, la voix, c'est incroyable, quoi.
C'est incroyable. Et dans ce film, elle est démente. Elle est démente. Elle est démente dans tout. Hein. Ouais. Plein d'images d'elle me viennent, dans Peau d'âne, dans tout ça. C'est un...
Il avait peur qu'elle n'accepte pas Truffaut.
Ah oui?
Ouais, finalement, elle accepte parce qu'elle joue quand même une grande bourgeoise. Et dans la vie, ce n'était pas du tout une bourgeoise. C'était
elle
une grande féministe.
Elle est tellement drôle dans le film. Elle est tellement
drôle.
Elle est tellement géniale. Mais tout le film est génial, ouais. Vraiment. Et on parlait de Lonsdale quand il va chez le détective.
C'est extraordinaire.
Et qu'il dit je voudrais savoir pourquoi personne ne m'aime. Je voudrais savoir, je voudrais comprendre. Je suis un homme qui vend des chaussures à des Chinois, à des Juifs. Mais ça dénonce tellement de choses, mais de façon tellement intelligente. C'est brillantissime ce film, sans parler de ce qu'on connaît tous, Antoine Doinel,
Miroir.
Le Miroir et Fabienne Tabar.
Non, mais Christine Darbon.
C'est dément, quoi, ce film est fou. La façon de filmer, Claude Jade et lui, en plan séquence comme ça, quand ils sont tous les deux, d'un plan fixe, ça devient un plan en mouvement. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc. Puis l'idée du détective privé, quoi, d'un seul coup. C'est tellement, il y a tellement d'humour et tellement d'amour aussi. Enfin, c'est lui, tout à coup passionné par cette femme, si loin de lui socialement et tout ça. Et puis il y a tout un. Non, mais c'est une réussite totale.
Et la chanson de Traînée qui donne une mélodie formidable.
Ouais. Il y a toujours des chansons dans les films de Truffaut qui sont incroyables. Parce qu'il y a aussi du Traînée dans L'argent de poche, qui est un de mes favoris aussi.
Ouais.
Et les enfants s'ennuient le dimanche,
les enfants s'ennuient.
Il a fait boum, le petit bébé qui...
Grégory a fait boum.
Grégory a fait boum.
Ouais. Et puis la petite Sylvie, qui dit plique et ploque avec les poissons. J'ai faim. Personne lui... Tout le monde s'organise avec la corde qui passe de la... Avec Tiloan, qui est la maquilleuse d'Isabelle Huppert depuis toujours.
Ouais.
Et qui joue, qui était sur les films de Truffaut.
Et non, merci pour ce frugal repas.
Merci.
Oui,
fantastique. Et puis à ça, je me dis, ça, entre ce qu'on devait lire de François Truffaut et ce qu'un film de François Truffaut devait être à la lecture, qui devait être assez génial à lire, mais ce que ça devient, c'est là où le cinéma fait tout son chemin. C'est-à-dire que le mec avait un regard sur les enfants, filmer les enfants comme ça, filmer l'amour comme dans Baiser volé ou comme dans L'amour en fuite. Je pense que ces scénarios étaient déjà brillants, mais c'est le cinéma de Truffaut qui m'épate, c'est les plans, la peau douce, tout le plan en séquence, quand il rentre chez lui, quand De Sailly rentre chez lui, il y a sa femme, machin, on le sent habité par la femme qu'il vient de rencontrer dans l'avion. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un maître pour moi des films qui, c'est vrai, me sensibilisent particulièrement, qui sont des films d'amour ou autour de l'enfance. Mais quand je parle de l'argent de poche, par exemple, c'est aussi pour parler de la difficulté de filmer des enfants.
Ouais.
Et ça m'a frappée avec lui. Et c'était aussi assez frappant avec Miller, je trouve, de façon très différente. Mais quand j'ai fait un film avec Miller, il y avait un petit gamin, tout petit. J'avais un petit enfant dans le film. Puis dans d'autres films, la classe même des plus âgés. Mais autour de l'adolescence et l'enfant, je trouve que Truffaut était... T'es incroyable avec les enfants, les deux jumeaux, c'est bon, excellent. C'est un truc qu'on se repasse en boucle. Ah ouais, c'est merveilleux.
Une histoire d'amour au siècle dernier en Angleterre, enfin, les amours contrariés, plutôt de deux sœurs, Elinor Emma Thompson et Marianne Kate Winslet, face à cette société anglaise cruelle, ses raisons et sentiments, 1996, Anglie d'après Jane Austen, et scénarisée, s'il vous plaît, par Emma Thompson. Ouais. Romantisme retenu en phase, nous avons choisi cette scène dans laquelle Emma Thompson va avouer à sa sœur les sentiments que lui inspire Edward Hugh Grant.
Eleanor, where is your heart? What do you know of my heart? What do you know of anything but your own suffering? For weeks, Marianne, I've had this pressing on me, without being at liberty to speak of it to a single creature. It was forced on me by the very person whose prior claims ruined all my hopes. I have endured her exaltation again and again, whilst knowing myself to be divided from Edward forever. Believe me, Marianne, had I not been bound to silence, I could have produced proof enough of a broken heart, even for you.
Quel jeu, non mais quel jeu.
Alors là, pour moi, c'est vraiment un choix par rapport... Bon, à Anglie, j'adore Anglie, je l'avais découvert avec le premier, quand s'appelait Garçon...
Garçon d'honneur.
Garçon d'honneur. Mmh. Et là, c'est vraiment, pour moi, Emma Thompson, ce qu'elle fait dans ce film, le moment... Comme elle garde tout en elle, puisqu'elle est, elle cache ses sentiments, elle est l'inverse de sa sœur qui, elle, rougit dès qu'on la regarde. Ouais. Elle masque, elle est dans un truc de raison, justement. Mais le cœur a sa raison que la raison, etc. Et Hugh Grant, quand elle pense qu'il épouse une autre et qu'en fait, il arrive et que c'est pas lui qui épouse, mais c'est le frère et que donc il est libre.
Et elle pleure
pendant... Persuadée qu'il va épouser quelqu'un, donc il est plus possible pour elle de aimée, et qui lui dit mais non, je l'épouse pas, et qu'elle a un craquage qu'elle retient pendant tout le film, qu'on retient avec elle.
Oui.
Donc quand elle a ce craquage qui est pour moi, quand on veut être actrice, les filles, regardez tout ce film pour voir ce qu'elle fait.
Ouais.
C'est un plan sur elle qui bouge pas, où elle est en craquage total, mais en genre suffocation de « j'ai tout gardé, je peux plus », elle implose. Et elle est en « comme ça, de joie, de lâchage de tout ce qu'elle a retenu pendant tout le film. C'est grandiose ce qu'elle fait dans ce film. C'est une actrice, de toute façon, même dans Les Vestiges du Jour, avec James Ivory, tout ça, c'est une actrice énorme. Et quand on pense qu'elle a participé... vraiment de près à l'écriture.
Ouais, c'est elle qui a écrit,
mais je veux dire... Et puis les rôles sont les deux sœurs. Enfin, il n'y en a pas une lésée dans l'histoire.
Non.
C'est extrêmement beau
de voir
ça.
Elle a fait la part belle aux autres actrices.
Exactement.
En plus.
C'est très beau de voir qu'elle a donné un rôle sublime aussi à Kate Winslet, qui est géniale aussi dans le film.
Un autre exercice, un grand exercice d'acteur-actrice, celui de Dustin Hoffman, dans Tootsie de Sidney Pollack. Merci pour ses choix. L'histoire de cet acteur au chômage, qui se déguise en femme pour trouver du travail. Il va l'annoncer au restaurant à son agent, qui est joué par Sidney Pollack.
Hi. Wait.
I'm new in town and I'm awfully lonely. I wondered if you wouldn't mind buying me lunch.
Wait, hold on. You can't come. Gregory, this was...
George. It's Michael Dorsey, okay? Your favorite client.
How are you?
Last time you got me a job, it was a tomato.
No.
Swear to God.
Michael.
Yeah.
Oh, God, I begged you to get some therapy.
I know, and you also told me that no one would ever hire me again.
Jesus Christ, you think this is going to make a difference?
I got a soap, George. I'm the new woman administrator on Southwest General.
You're what?
Congratulate me. They almost didn't hire me because they thought I looked too feminine.
Something from the bar.
Isn't that amazing?
Please, could you get me a double vodka right away, please?
You know?
For the lady?
Oh, how about a Dubonnet with a twist?
Yes, ma'am.
Thank you. That's a lovely blouse.
Thank you.
Welcome.
Dustin Hoffman avec la voix d'un homme et d'une femme en même temps, une femme sur le métier de comédien, ce tout-ci. Quelles sont les limites de l'identification à un rôle, finalement? Il y a ça aussi comme question. Il y en a tellement dans le film.
Il y a tout dans ce film. Il y a tout dans ce film. Il y a le chômage.
Oui, le chômage des comédiens.
Le chômage des acteurs, le chômage... donc, tout le monde peut s'identifier.
Ouais.
Il y a... jusqu'où on peut aller effectivement pour
un rôle,
pour travailler,
ouais.
Et pour la passion qu'il a comme professeur de théâtre, enfin d'acting dans le film,
ouais.
Des rôles secondaires époustouflants, il y a Bill Murray, il y a Jessica Lange, il y a une histoire d'amour
ouais.
Qui en plus se complique puisque il devient une amie de celle qu'il aime en fait.
Ouais.
Enfin, tout est réussi. De toute façon, Sidney Pollack, je suis intarissable, c'est vraiment un cinéaste. Mais là, il réussit un tour de force, parce que pour faire croire à Dustin Hoffman en femme, qui en même temps, quand il sort sur la 5e avenue, fait taxi avec la voix du mec. Oui. Enfin, tout est drôle, et tout est si bien construit, tout est si bien scénarisé, tout est si bien filmé. Lui, il se donne un rôle génial, Sidney Pollack.
C'est génial.
Génial.
C'était un très grand acteur aussi.
L'autodérision du mec, ouais. Grand acteur. Enfin, je sais pas, il y a tout. La dernière phrase du film, tu me prêteras ta jupe jaune. Ouais. Qui dit à Jessica Lange au moment où ils finissent par se retrouver, tout le
c'est
père de Jessica Lange,
c'est
vraiment proche de certains Lame Show. Ouais. D'ailleurs, j'adore certains.
Il y a un truc très fort aussi dans ce film. C'est aussi l'histoire d'un homme qui se rend compte, qui découvre ce que les femmes subissent.
Aussi, ouais, parce qu'il se met à la place des femmes, qui découvre ce que c'est que d'être une femme. Oui. D'être une femme au quotidien, de plaire aux hommes, de plaire, d'être une femme dans la société, pour choper du travail. Enfin, il y a tout un truc. Il y a un truc génial aussi sur le pouvoir du mec, là, sur le tournage, qui abuse de son pouvoir.
Oui.
Aujourd'hui, ça passerait mal. Qu'il la harcèle, qui harcèle Jessica Lange, et lui, étant un homme déguisé en femme, ose lui le gifler, quoi.
Oui.
Enfin, ose. Et puis, il y a la scène de fin où il avoue à tous ceux qui l'ont aimé en Dorothy, qu'il devient une héroïne préférée de tout le, de tous les
États-Unis. Une icône féministe,
complètement.
Ouais.
Et qu'il ose, en direct, puisque c'était des tournages en direct, ces séries. Dire que, comment il dit, definitely, I'm not, et il enlève sa perruque, et là, mais c'est grandiose, quoi.
Ça prouve
c'est
un film. Vous l'avez vachement regardé, alors, ce film.
Ah ouais, et je l'ai même revu à la Cinémathèque quand il a été restauré, là, parce que je voulais le revoir au cinéma.
Oui.
Et c'est un film de cinéma, et c'est vraiment, il resterait dans les trois préférés absolus, même si c'est impossible d'en choisir, trois. Je pense qu'il est dans mon top 5, en tout cas.
Et pour conclure cette carte, même si on va aussi parler quand même de Georgia, d'Arthur Penn, mais encore une actrice qui a signé un premier film, c'est Agnès Jaoui, dans Le goût des autres. Mmh. On a choisi une scène un peu moins connue, c'est entre elle, Jaoui, et Bakri, qui joue donc cet industriel qui tombe amoureux de cette...
C'est dans la salle de bain ?
Exactement.
J'adore.
Ah, super.
Ça pique pas trop ?
Ça pique pas du tout.
Mais, vous avez pas une moustache avant ?
Ah ben oui, voilà. Et personne n'a rien vu. À part ma femme, qui trouve que ça me fait une drôle de tête.
Mmh, j'aime bien, moi. Mmh.
T'es une amie à vous, Clara ?
Mmh.
Ben, elle n'a rien vu, par exemple. Elle vous a raconté comment je me suis ridiculisé la dernière fois ?
Quand ? Ah oui, l'autre soir, quand vous avez dîné au bar avec Antoine, tout ça ?
Non. Ah bon, je me suis ridiculisé aussi ?
Ah non, je croyais que... Je sais pas du tout, en fait, quoi ? Quand ?
Ma déclaration, là.
C'est-à-dire ?
Je lui ai fait une... Elle vous a pas raconté ?
Non, elle m'a rien dit.
Une petite déclaration...
Pardon ?
Je lui ai écrit...
Fait mal.
Ouais.
Ça y est, ça va passer.
J'espère.
Mmh. Admirable ce tempo, hein.
Non mais c'est à pleurer. Lui c'est un génie, un acteur incroyable, qui est bouleversant dans le film. C'est un film sur les a priori.
Oui.
Sur la connerie aussi en fait.
Ouais.
Et si bien écrit par Agnès, si bien, je sais pas si. Tous les personnages sont existent, le chauffeur, le garde du corps que jouait Lanvin, Chabat, enfin
Anne Alvaro qui a
Anne
eu
Alvaro
le César.
Qui est merveilleuse, et puis Jean-Pierre qui joue cet homme à la fin qui apprend qui il est en fait grâce à une femme qu'il rencontre, et puis elle qui est pas prête à l'aimer parce que elle est dans un milieu théâtral et une culture différente de la sienne,
snobisme,
très snob, et ils étaient très attachés à ça, je pense, Agnès Jaoui et Bakri, cette espèce de chose du snobisme, du quant à soi, et le film dénonce ça mais tellement avec humour, avec énormément, je trouve, de tendresse, ouais. d'émotion. Mmh. Enfin, c'est un très grand film. Moi, je le regarde aussi régulièrement. Mmh. Ça fait partie. C'est marrant comme on peut aimer Afsia Ersi et ça, par exemple. Ouais. Mais c'est deux films de femmes, mais qui n'ont rien à voir et en même temps qui me touchent à des niveaux très différents, mais aussi forts l'une que l'autre, quoi. Mais elle. De toute façon, l'arrivée de Jean-Pierre Bacri et Daniel Jaoui dans ce métier a changé les choses, je trouve.
De quelle façon ?
Bah, deux auteurs sont arrivés.
Ouais.
On en manquait, je pense. Ouais. On manque d'auteurs qui savent à la fois nous raconter dans l'époque et être drôles et en même temps si intelligents, si subtils.
Et un tandem masculin-féminin.
Oui, ils parlent autant des hommes que des femmes. Ouais. Ils font la part belle aux deux et puis ils ont un regard... Ils sont extrêmement humains, je pense, tous les deux. Et donc, ils ont eu un regard très humain sur, sur la vie, sur les gens. Et ça fait du bien de voir un film qui dénonce... moi, je suis très sensible aux apparences, à ce qu'on veut montrer de soi, à ce qu'on n'arrive pas à montrer de soi, à ce qu'on connaît pas de soi, à ce qu'on peut apprendre de soi. Tout le film raconte tout ça.
Ouais.
Raconte comment on n'est pas capable d'aimer, comment l'envin fuit cette femme...
Ouais.
À la fin, enfin, je m'en souviens très très bien quand même du film, parce que ces films-là, ils passent les époques, quoi. Ils restent en nous.
On n'a plus de temps pour parler, malheureusement, de Georgia d'Arthur Penn, mais on sait que c'est dans votre liste.
Ouais, je l'ai vu quatre fois de suite dans la salle sans bouger.
De Piala,
il est immanquable.
De tant d'autres.
Il en manque, il en manque. Et de tant d'autres. Mais c'était super d'en parler de cela.
Et cette année, on va vous retrouver dans trois films, donc je disais Banquise de Emmanuel Courcol, qui a fait en fanfare.
Ouais.
Ce qui compte, Jean-Baptiste Leonetti.
Mais c'est un premier film, ouais. Avec Pierre Lottin.
Et le pitch d'Illustre Inconnu, formidable, de Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert. Où vous jouez votre propre rôle et Isabelle Huppert, une débutante.
Une figurante.
Une figurante.
Ouais. Le postulat de départ est très... très intéressant.
On se retrouve pour les sorties après PR2B Amnésie.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent passé. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur. Comme tout appris par cœur, c'est fou, c'est beau et ça fait peur. Retiens tout et même ce qui ne compte pas. Tous les mots qui me viennent ont été dits déjà. J'aimerais qu'une fois cesse cet air de déjà-vu. Même mon premier amour, je l'ai déjà connu. Rien d'inattendu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort.
Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Pour ses premières sorties de l'année, Laurent va commencer par Los Tigres de Alberto Rodriguez.
Oui.
Frères et sœurs, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage en découvrant que la cargaison de drogue, dissimulée sous un cargo. Ils pensent avoir trouvé la solution pour résoudre leurs problèmes financiers. Film d'auteur et thriller, tension des scènes sous-marines et portrait de famille manqué par les non-dits et les transgressions, Laurent.
Oui, alors c'est d'un auteur qu'on avait bien aimé en 2015 avec son La Isla Minima,
oui,
qui était un beau polar. Il reprend le genre, c'est à nouveau un polar, autour, vous le disiez, du trafic de drogue. Ce qu'il y a de plus intéressant, à mon sens en tous les cas, c'est une sorte de presque de documentaire sur ce métier de scaphandrier qu'ils exercent dans un environnement incroyable de quais de docker, de raffinerie de pétrole. Ça, c'est très très réussi, ça c'est très passionnant. Du coup, je trouve qu'il délaisse un peu, et nous avec, son suspense, son côté polar, qu'il multiplie les invraisemblances et les ellipses qui le desservent profondément. Donc il faut accepter que le polar soit déséquilibré au profit du réel, mais un réel si bien documenté qu'il est absolument enthousiasmant.
Laurent dans le vent, deuxième film de ce trio de réalisateurs après Mourir à Ibiza, il s'agit de Anton Balagtian, Léo Couture, Matteo Eustachon à 29 ans. Laurent cherche un sens à sa vie, sans travail ni logement, il atterrit dans une station de ski déserte.
Oui, alors on est hors saison, comme on dit dans les stations de sport d'hiver. Et ben lui, Laurent, il est hors sol, au chômage depuis des années, expédié par sa sœur dans un appartement vide où il est prié de se faire oublier. Et le film est fait de ses rencontres, et ben de personnages qui sont tout aussi hors sol que lui. Une vieille dame qui attend et appelle la mort, un photographe désœuvré. Sans oublier Santiago qui, lui, rêve de créer une colonie viking sur un territoire désert. Tout est dit, ou presque. Bon, on aura bien compris que on est plus proche de Guiraud que de bien d'autres univers et de ces personnages fantasques, tout près d'un rêve éveillé qui, je trouve, nous séduit par une sorte de mélancolie joyeuse qui infuse tout le film.
Magellan, du cinéaste philippin Lav Diaz, porté par le rêve de franchir les limites du monde. Magellan, c'est Gaël Garcia Bernal quand même, défie les rois et les océans au bout de son voyage. C'est sa propre démesure qu'il découvre. Ce n'est pas un biopic, ce n'est pas un film d'aventure, pas de dramaturgie épique ni glorification de la conquête, mais des plans fixes splendides, certes, mais pendant 2h43.
Ah oui, mais nous aurait-on changé Lav Diaz ? Parce que c'est, pour lui, c'est un court-métrage. Et en général, il fait des films très très longs en noir et blanc. Là, c'est un film très très court, 2h36 en couleur. Et plus encore, il est servi, vous le disiez, quand même par un acteur qui a une stature internationale, ce qui n'était pas le cas de ses castings précédents. Et il n'est plus aux Philippines, là aussi. Bref, c'est du Lav Diaz sans Lav Diaz, mais ça reste du Lav Diaz, heureusement, je dirais. On est très loin de Herzog tendance à Guiré, effectivement. Il n'y a pas de romantisme ici. Mais je trouve, moi, une réussite esthétique fascinante et hallucinée, l'anti, effectivement, fresque héroïque par excellence, et avec un film aux allures de Requiem, mais à bas bruit.
Valérie Trouaud, d'Antonin Peredjatko, Norbert, vampire de bonne famille aristoréac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s'il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Accompagné par son valet gardien de musée, il fait naufrage sur l'île du Boulet Rouge. Horriblement absurde et diablement incorrect, dit la bande-annonce.
Oui, écoutez, on s'en voudrait de dire trop de mal d'un film d'Antonin Peredjatko dont on avait tant aimé, notamment La fille du 14 juillet. Mais, disons que cette nouvelle production désarçonne et déçoit, à moins d'adhérer, et pourquoi pas, dès les premières minutes, à un univers totalement hors sol et totalement barré, puisque c'est une histoire de vampire. Il faut accepter de se faire mordre dès le départ, sous peine de rester à côté du cercueil en pénitence.
Le pays d'Artaud de Tamara Stepanian. Céline, elle fait des drôles de choix, Camille Cotin, quand même. Céline arrive pour la première fois en Arménie afin de régulariser la mort d'Arto, son mari. Elle découvre qu'il lui a menti, qu'il a fait la guerre, usurpé son identité et que ses anciens amis le tiennent pour un déserteur. Commence pour elle un nouveau voyage, la rencontre du passé d'Arto. C'est un film comme un travail de mémoire sur l'exil et le déracinement pour son héroïne, aussi un chemin vers la transformation.
Oui, alors c'est le premier film de fiction d'une cinéaste dont on peut voir en ce moment un documentaire sur Arte TV qui est tout aussi intéressant, qui s'appelle Mes fantômes arméniens, je le dis en passant.
Oui, c'est vrai.
C'est un road movie.
Tamara Stepanian.
Absolument, il faut citer son nom, vous avez raison. Oui. Le film est porté de bout en bout, ce film-là, celui dont on parle, Le pays d'Arto, par une Camille Cotin dans le rôle d'une veuve, en terre étrangère à tout point de vue. C'est donc le récit d'une initiation sur fond de deuil qui se transforme en une sorte de dialogue d'outre-tombe avec son mari décédé. Mais elle rencontre évidemment des vivants, et des vivants très très vivants, comme celle qui conduit sa voiture, ou aussi une apparition incroyable de Denis Lavant, en soldat à moitié dingue. C'est presque pas un rôle de composition non. Pour Denis Lavant. Et on sent au fond cette certitude que le cinéma peut tout réparer, ou presque.
Sur un air de blues de Craig Brewer, avec Hugh Jackman et Kate Hudson. Basé sur une histoire vraie, Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens fauchés qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe, lui rendant hommage. Ensemble, ils prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour suivre son cœur et accomplir ses rêves.
Ouais, c'est ça. C'est deux heures de tube, mais aussi de crise cardiaque, d'accident de voiture, une amputation, sans oublier une descente aux enfers, l'alcoolisme, les mariages, un enterrement. J'en passe et des meilleurs. Et puis même un souvenir, quelques souvenirs de la guerre du Vietnam. Ben oui, parce qu'au bout du compte, c'est America First, porté par cette naïveté du feel good à tout prix, malgré tout. On est donc bien loin de l'Amérique actuelle.
Qui brille au combat, c'est la première réalisation de l'actrice Joséphine Japy. La maladie génétique rare de Bertille et le combat quotidien d'une famille. Et vraiment le sacrifice aussi de la mère qui a dû renoncer à son travail. Un film inspiré de l'histoire personnelle de Joséphine Japy, sa sœur Bertie, diagnostiquée à l'âge de 22 ans d'une maladie génétique rare, du développement neurologique. Comment filmer le handicap frontalement, répond le film.
Oui, alors c'est le premier film d'une actrice, Joséphine Japy, effectivement. On se réjouit vraiment beaucoup de retrouver au casting de ce film Félix Kissil, qu'on avait découvert dans Le Miséricorde de Guy Rodis.
Ah oui.
C'est vraiment un atout fort du film. Après, moi j'avoue que je suis resté un peu loin et que j'ai trouvé certaines faiblesses et maladresses scénaristiques dans la caractérisation des personnages notamment. Mais peut-être est-il difficile de parler d'aussi près de ce qu'on connaît aussi bien.
Il nous reste 1 minute 30 pour deux cadeaux pour Sandrine
Kiberlin. D'abord, un film de Todd Haynes, Carole, coffret de chez Bubble Pop, coffret du talentueux éditeur Bubble Pop, New York des années 50, deux femmes, Kate Blanchett, Rooney Mara.
Et qu'on ne connaissait pas encore aussi, qui est sublime.
C'est vrai. Ouais.
Absolument, absolument. Contre le bien-pensant. C'est une merveilleuse édition ultra 4K avec un livret de 100 pages, des bonus à gogo. Ça part du roman de Patricia Highsmith, parce qu'on a oublié un peu que c'est un roman de Patricia Highsmith, jusqu'au making-of du film. C'est un cadeau parfait pour
l'image
cette
est sublime.
Ouais, sublimissime. Mon Dieu.
On est très heureux de vous offrir ce coffret et de le recommander à nos auditeurs, bien évidemment, par la même occasion. Est-ce que vous vous souvenez de Lady Snowblood dans Kill Bill de Tarantino? Elle est issue de cette Lady Yakuza.
Génial.
C'est un personnage qui traverse 8 films, dont Prépare-toi à mourir, j'adore. C'est chez Carlotta, un coffret Blu-ray et des suppléments, là aussi à gogo, avec un livret.
Merci infiniment, Sandrine Kiberlin.
C'est moi qui vous remercie pour cette invitation.
Merci pour cette belle carte blanche. On vous retrouve en 2026, d'abord dans Ceux qui comptent, ensuite dans Banquise et enfin dans Illustre inconnu de Marc Fitoussi. Merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale et aux manettes ce matin, David Diboué Black.
Merci.
Au revoir.
Salut.
C'était On aura tout vu sur France Inter.